Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. En commençant, il faut vous dire, comme toujours, que cet épisode est une présentation des Ross et compagnie et que si vous allez sur leur site internet et que vous utilisez le code HISTOIRE15, vous pourrez avoir des petits jouets coquins et tout autre objet pour vous faire plaisir et découvrir votre corps et celui des autres, dans le consentement, évidemment, là, regarde.
C'est toute une intro, ça.
Pas pire, c'est correct, hein? Évelyne Perron, bonjour!
Gabrielle Caron, bonjour!
Comme si ça faisait pas déjà une demi-heure qu'on jasait sur Zoom avant.
Je sais pas de quoi on parlait exactement. Ah oui, je viens de me rappeler. C'est un secret, vous le saurez pas.
Un secret, oui, désolée, on est tease de même. Mais écoute, Évelyne, aujourd'hui, un sujet que je suis vraiment heureuse qu'on aborde, les femmes archéologues.
Les pionnières, Gabrielle, les pionnières, oui.
Oui, on aurait pu dire juste les archéologues, mais c'est parce qu'on tient à préciser qu'on va parler de madame archéologue. Oui. Et là, Évelyne, savais-tu que moi, pendant un temps, je voulais devenir archéologue?
Mais comme tout enfant, ça me surprend pas. Est-ce que c'est à cause d'Indiana Jones?
Hey, j'avais comme jamais fait le lien qu'Indiana Jones, il était archéologue. Tu sais, je l'ai fait vraiment plus tard, ce lien-là, parce que c'est pas ça qu'on retient.
Il fait pas tant d'archéologie, pour vrai. C'est plus un pilleur de tombe, donc je peux comprendre. Mais c'est la réponse qui suit.
Mais j'étais assez vieille, honnêtement. Tu sais, je me souviens, dans le bout qu'il fallait choisir nos cours au cégep, là, je m'étais renseignée pour savoir c'était quoi le parcours à suivre pour devenir archéologue. Et puis, on m'avait dit un moment donné que j'étais pas assez patiente pour être archéologue, ce qui est 100% vrai. Donc, j'ai malheureusement mis de côté. Mais peut-être qu'un jour, là, quand je serai complètement riche, je pourrais être mécène pour des archéologues. Qui sait?
Ah, ce serait chouette. Moi, tu vois, ce que tu es, mes aspirations en ce sens, c'est mes piètres talents en dessin.
Oh, je savais même pas qu'il fallait bien dessiner.
Ben aujourd'hui, c'est moins pire avec les programmes informatiques, les appareils photo, puis tu sais, mais oui, souvent, tu sais, il y a des croquis ou des esquisses à faire sur le terrain, puis j'ai eu des cours d'archéo en cours complémentaire dans mes études, entre autres en préhistoire, et dessiner un biface, là, c'est un calvaire, et voilà, ça... J'étais contente d'avoir choisi histoire plutôt qu'archéologie comme discipline.
Eh oui, mais puis là, en plus, avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais que l'archéologie, c'était un milieu full sexiste.
Oui, et je dirais que là, présentement, c'est moins pire, mais jusqu'aux années 80, même 90, c'est...
1980.
Ça a été des milieux assez conservateurs à cet égard-là, parce qu'on avait cette espèce de... piètre excuse que les femmes n'avaient pas la consistance et la robustesse physique pour supporter les grosses chaleurs dans les déserts, mettons, ou le froid dans des lieux plus frais, puis les longues journées, toujours penchées. Il y avait aussi encore ces espèces de vieilles croyances que de toujours être en petit bonhomme ou à genoux pour gratter le sol, c'était pas bon pour si elle voulait avoir des enfants. Ensuite, ça avait un impact sur l'utérus. On entre dans cet univers de tous les clichés qui ont affecté et affligé les femmes qui voulaient avoir une carrière. Surtout pour des métiers physiques, parce qu'archéologie, ce n'est pas qu'intellectuel, ça reste un métier de terrain aussi, et c'est ce qui a été, je dirais, plus problématique pour beaucoup de femmes, ce qui fait que celles dont on va parler aujourd'hui ont toutes eu, à leur façon, sauf une exception peut-être, eu à faire face à du sexisme quand même assez sérieux, et peu importe les décennies qu'on va couvrir, parce qu'on parle du 19e siècle jusqu'aux années 60-70 aujourd'hui, c'est assez particulier. Et c'est encore dénoncé présentement. On est en 2023, puis je te dirais qu'il y a beaucoup de jeunes femmes archéologues qui vont parler d'inconduite sexuelle ou de propos sexistes sur les chantiers de fouilles, comme quoi quand les femmes sont moins respectées, sont pas considérées comme étant légales des hommes quand elles émettent une hypothèse ou une théorie. Bon, on est en 2023, là, puis encore des articles qui sortent là-dessus où les jeunes filles parlent de leur expérience des fois sur des terrains de fouilles où souvent elles sont avec des collègues beaucoup plus âgés qui ne les prennent pas au sérieux, puis qui se disent, ben, tu sais, ils t'offreront pas, les gars vont t'offrir, ou qui font des blagues, qui aujourd'hui ne sont plus adéquates, là, n'ont plus leur place sur les chantiers de fouilles. Fait que ça fait partie de publications qu'on va voir, entre autres, sur The Conversation, si vous connaissez ça. C'est une revue maintenant où les scientifiques peuvent essayer de vulgariser ce qu'ils font dans leur thèse ou sur le terrain en archéologie. Tout ça, en fait, ça couvre toutes les disciplines, sciences appliquées, sciences humaines aussi. C'est souvent sur cette revue-là que les jeunes femmes, les jeunes archéologues vont s'exprimer là, sur les enjeux qu'on vit encore par rapport à ça. Fait que c'est quelque chose d'assez concret, là.
Ah ouais, mais ça porte pas un nom, ce je vais dire syndrome, entre guillemets, là, mais quand une femme dit quelque chose puis qu'un homme va le répéter et qu'on va écouter l'homme et non pas la femme. Me semble qu'il y a un mansplaining. Non, c'était pas le mansplaining que je cherchais, mais parce que me semble que c'est arrivé à une scientifique aussi. Ben, ça a dû arriver dans tous les domaines, ça arrive encore aujourd'hui.
J'ai vu Geneviève Guilbeault contre Denis Coderre, et tout le monde en parle, il y a pas si longtemps que ça, après l'élection de la CAQ, c'était clairement ça, là. En direct!
Eh boy! Fait que bref, le milieu de l'archéologie n'y échappe pas, puis ça a été tenace.
Comme je te disais, le côté physique de la chose, le fait que les femmes sont appelées à voyager beaucoup, sont loin de la maison pendant longtemps, ne peuvent pas s'occuper des enfants, ça a contribué au fait que c'est une discipline où ces fausses conceptions sur les capacités féminines là, ont une durée de vie beaucoup plus longue que dans d'autres disciplines scientifiques. Histoire, je veux dire, les femmes ont commencé à faire de l'histoire puis à devenir chargées de cours ou commencer à enseigner bien avant les archéologues, ou du moins vont être plus reconnues avant parce que c'est un métier plus intellectuel qui n'est pas physique. Puis tu sais, tu rentres chez toi le soir puis tu peux t'occuper de tes enfants, tu comprends? Fait que ça fait partie de la réalité.
Et là, Evelyne, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de 5 archéologues féminines qui ont été importantes dans l'histoire.
Oui, et la première, ben, vous la connaissez peut-être parce qu'il y a un film plus ou moins bon qui est sorti sur elle récemment avec Kate Winslet dans le rôle titre, qui est enfin on va parler d'une paléontologue davantage, qui est Mary Anning. Donc tu sais c'est qui?
Je la connais.
Comment ça que tu la connais mais pas à cause du film?
Ben non, je la connais parce que c'est une paléontologue,
oui?
Puis de l'ancien temps là, me semble dans mon souvenir elle porte des grosses robes pis tout.
Ah oui, on était au tout début du 19e siècle. Fait que t'es juste, là.
Oui, et je la connais parce que j'ai un livre pour enfants qui parle de Mary Anning. Donc, écoute, la collection, c'est Little People, Big Dreams. Et puis, il y a un livre consacré à elle, puis ça explique la vie de Mary Anning aux enfants. Donc, tout son parcours, qu'est-ce qu'elle faisait, c'était quoi son travail, dans quelles années et tout. Puis, cette collection-là, je fais une parenthèse, elle est vraiment hot parce qu'ils ont plein de personnages, genre Nelson Mandela, David Bowie, Rosa Parks, tu sais, tous des personnages marquants et importants dans plein de domaines. Fait que je recommande vraiment beaucoup pour initier vos jeunes là, à des personnages historiques. C'est vraiment merveilleux.
Ah, wow!
Fait que je connais Mary Anning parce que j'en ai parlé avec mes enfants.
Mais, je sais, moi, je suis très contente d'entendre ça parce que la paléontologie, bon, c'est une discipline qui peut être un peu difficile, mais quand c'est bien expliqué, ben ça peut justement susciter la curiosité puis donner envie ou faire rêver les enfants de peut-être s'en aller vers paléontologie, archéologie, histoire, puis qui sait, plutôt que de vouloir être un YouTuber, tu sais, je veux dire, peut-être que ça peut changer leur... envie pour le futur.
Mais peut-être un YouTuber paléontologue, là.
Pourquoi pas? Là, je pense que YouTuber, ça commence à être dépassé. C'est un TikToker, là. On va voir pour la suite.
TikToker paléontologue. Pour vrai, je m'abonnerais à ce compte.
Il y en a.
Mais Mary Anning n'avait pas de réseaux sociaux. Quand est-ce qu'elle est arrivée?
Ben, on est vraiment au début du 19e siècle. Mary Anning, on parle du Dorset en Angleterre, donc côte sur le bord de mer. Il faut imaginer, là, vraiment, toujours un petit peu brumeux, toujours un peu frais, on n'est vraiment pas là, dans les secteurs les plus chauds. Mais c'est un secteur qui va devenir, au début du 19e siècle, privilégié, je te dirais, fait par l'élite économique parce que bon, on est en pleine révolution industrielle en Angleterre, dans les années 1815-1820 en particulier, et l'ère des villes commence à être vraiment viciée et l'élite commence l'été à trouver que l'air est difficile à respirer. C'est l'époque où les médecins conseillent de quitter les villes, d'aller profiter de l'air marin, de prendre des bains de mer contre la tuberculose et plein de choses, mais habillés avec un terrible maillot et dans une cabine en plus, parce que les femmes ne pouvaient pas se montrer, fait qu'on roulait les cabines dans l'eau, les femmes se baignaient cachées, il y avait le trou dans la cabine qui était tiré et ramené par des chevaux, on ne voyait même pas les femmes se baigner, elles plongeaient dans l'eau de mer froide puis elles remontaient puis on ne les voyait jamais là. On est dans...
Oh mon Dieu, j'haïs tout de ça. Mes yeux roulent, je soupire.
Je témoigne, c'est vrai.
J'haïs tout de ça. Autre temps, autre mœurs, là. Je comprends, mais my God!
On est loin du teeny bitsy bikini, là. C'est complètement l'opposé. Mais ça fait en sorte que les petits villages côtiers, qui étaient avant des petits villages de pêcheurs, avec des gens peu éduqués, vont tout d'un coup voir arriver quelque chose de nouveau, et ça va changer l'économie, c'est le tourisme. Et Mary Anning vit dans cet univers-là parce que elle et son père avaient commencé à s'amuser, à regarder sur le bord des récifs quand il y avait des grosses tempêtes et tout ça. Bien, ils trouvaient des fossiles et des pièces, des fois, qui intéressaient les scientifiques britanniques et même français qui leur achetaient des pièces. Donc, ils réussissaient à faire un peu d'argent avec ça. Et malheureusement pour elle, bien, elle a 10-11 ans, 11-12 ans peut-être, et son père meurt subitement. Donc là, pour l'économie familiale, c'est une catastrophe. Et ben voilà, ils vont héberger des touristes qui veulent venir profiter des bains de mer, de l'air frais, des gens qui sont fortunés alors qu'eux autres ne le sont pas du tout. Elle, sa mère, est vraiment n'ont pas beaucoup d'argent. Et elle continue quand même, malgré tout, à faire de la prospection. Donc, elle se promène toujours après les grosses tempêtes, surtout au petit matin, le soir, sur les récifs. Puis elle commence à observer ce que je vois, quelque chose qui ressemble à une créature, l'empreinte de vertèbres ou des choses comme ça. Au début, elle est jeune, elle n'a pas les connaissances là, qu'elle va avoir plus vers la fin de sa vie en paléontologie. Mais elle commence à observer tout ça. Même si son père est décédé, on sait qu'elle, elle collectionne encore des objets. Souvent, elle les expose dans la maison et là, ben, tu as des touristes qui arrivent, qui ont un intérêt pour la paléontologie, pour les espèces inconnues très anciennes qui souvent remarquent de ces pièces et lui achètent. Ce qu'on ignore à l'époque, c'est qu'au fil du temps, quand elle va devenir une femme, elle commence à avoir beaucoup de connaissances parce qu'elle note tout, elle dessine tout. Elle a un talent de dessin, soit dit en passant, ce qui va être pratique dans son cas. Mais tu sais, elle va trouver des espèces qu'on ne connaît pas encore. Mais on est à l'époque où on commence à comprendre l'idée d'une théorie de l'évolution aussi. Tu sais, il y a un bouillonnement intellectuel et scientifique, mais il y a des manques de connaissances, il y a énormément de trous. On commence à peine à construire ces disciplines-là. La paléontologie, à proprement parler, bon, est encore très expérimentale, mais tu sais, elle va trouver le squelette complet d'un plésiosaure. Ça ressemble un peu à ce qui pourrait être l'idée que tu te fais du monstre du Loch Ness, là.
Okay.
Comme créature des mers, là. Ça avait été acheté par le duc de Buckingham. Tu vois un peu le genre de gens qui vont venir acheter les pièces. Et les sociétés de géologie, tout ça, vont s'intéresser à ce qu'elle découvre. Elle va même trouver des pièces qui vont être exposées au British Museum. Elle va trouver des espèces qui étaient disparues depuis 70 millions d'années. Mais elle commence à tout copier à la main. Elle note, elle dessine, elle catalogue tout. Ce qui fait qu'elle a des bonnes observations. Puis des fois, elle est capable de dire, ah, ça a l'air plus d'une plume, mettons. Que d'une côte. Et là, ben, des fois, elle se fait astiner, tu sais, pardonnez l'expression, obstiner par des spécialistes qui disent non, je crois pas que vous soyez correcte. Et pourtant, elle a beaucoup plus d'expérience d'observation que ces gens-là, mais parce que c'est une femme, elle se fait constamment remettre à sa place.
C'est ça que j'allais dire. Laisse-moi deviner, est-ce que ces gens-là sont des messieurs?
Oui, c'est des messieurs. Il n'y a pas de femme en paléontologie à l'époque. Elle est vraiment unique, là. Je te dirais que là-dessus, elle bat des records, mais tu sais, c'est des décennies d'observations là, qu'elle a à tous les jours. Et c'est quand même assez fabuleux. Et là, il y a quand même du monde qui s'intéresse à elle parce qu'elle va oser contester l'article d'un grand scientifique de l'époque, qui est Georges Cuvier. Même si elle n'a pas le vocabulaire et je te dirais l'accent universitaire, elle est capable, elle a assez de connaissances quand elle est rendue, je dirais, la moitié de sa vie pour commencer à contester, confronter des scientifiques en disant non, voici ce que moi j'ai trouvé, il vous manque des morceaux, moi je les ai et votre théorie n'est pas bonne du point de vue de l'évolution. Et les messieurs, comme tu les appelles, mais pas ça. Alors, on a essayé de jamais la nommer. Elle va écrire un seul article scientifique dans un magazine d'histoire naturelle, mais elle est connue partout parce que plus ça va, plus elle vieillit, plus on voit que ses connaissances, ses catalogages, ses dessins sont d'une précision incroyable, et plus il y a de monde qui vont la visiter puis qui discutent avec elle et tout ça. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de ses pièces qui lui ont même pas été attribuées. On lui a acheté, mais les scientifiques se sont appropriés l'analyse et donc souvent les pièces portent le nom des hommes qui ont acheté les pièces à Mary Anning. Et c'est grâce à ces catalogues, des fois, qu'on est capable, et ses notes, grâce aux archives, qu'on est capable de dire « Ah non, c'est elle qui l'avait trouvé en premier, puis ça lui a été racheté. » Mais ça, c'est le lot de toutes les femmes que je vais te présenter. Sauf une qui va se battre vraiment contre ça, mais on va s'approprier souvent leurs découvertes, puis les hommes vont mettre leur nom dessus, parce qu'on est à une époque où les femmes, en théorie, n'écrivent pas dans les revues scientifiques. Puis tu sais, je vais faire un parallèle grossier, mais tu sais, récemment, je suis sur le CA du Centre d'archives régionales de Portneuf, et on est en train de monter une base de données d'archives culinaires. Okay. Et là, je m'étais dit, waouh, je suis dans une boîte du cercle des fermières de Deschambault-Grondines, il doit y avoir du beau stock là-dedans. Et là, ma frustration, ma fille, parce que les recettes qu'on avait ou quoi que ce soit, c'était toujours Madame Joseph, un tel. On n'a jamais le prénom de ces femmes-là. C'est passé dans le beurre parce qu'elles mettent le prénom et le nom de famille du mari. C'est juste Madame Joseph, mettons, désilée. Et donc, on ne sait jamais qui elles sont et on n'a pas leur prénom. Fait que tu vois, c'est quelque chose qui est là depuis très, très longtemps. Donc, imagine au début du 19e
siècle. Ah ouais, mais là, elle a vie de ça, là.
Oui, au début difficilement, mais puis sa mère résiste un peu, mais tu sais, eux font de l'argent avec le tourisme balnéaire, on peut appeler ça comme ça, mais lorsqu'elle est rendue quand même assez vieille, quand sa mère est décédée et tout ça, je te dirais que là, elle commence à non seulement à vendre des pièces à des prix qui sont un petit peu plus intéressants, mais on vient vraiment la voir pour avoir son expertise. Elle va avoir des fonds de recherche aussi qui vont l'aider à vivre jusqu'à la fin de sa vie. On va financer dans le fond son travail pour essayer de l'aider à la fin parce que ben elle n'a pas beaucoup de sous. Là. C'est quelqu'un qui a vécu dans une pauvreté quand même assez extrême toute sa vie. Là. Mais tu sais, ce qui est... À la fin de sa vie, elle va être super amère parce qu'elle réalise qu'elle partage ses connaissances avec tous ces grands scientifiques-là. Puis quand sortent les articles scientifiques, son nom n'est jamais mentionné. C'est même pas juste l'achat des pièces, c'est les articles scientifiques, en fait, qui font en sorte qu'on la nomme jamais. Et ils ont discuté avec elle, ils sont d'accord avec son point de vue, mais ils vont s'approprier sa théorie parce que ben, c'est juste une petite bonne femme un peu rustre qui habite sur le bord de mer. Fait qu'elle va mourir quand même très pauvre et très, très amère, en fait, de cet univers machiste et masculiniste de la paléontologie, de la science en général en Angleterre. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez triste là, pour, sa fin de vie. Là. Elle meurt d'un cancer du sein, d'ailleurs. C'est quand même un des exemples les plus clairs pour l'époque où on sait que c'est de ça qu'elle est décédée. Là. Mais bon, elle est pas morte. Elle est morte dans la pauvreté, mais elle arrivait à se nourrir et tout parce que la Société géologique de Londres, se sentant probablement cheap de lui voler ses idées, la supportait financièrement. Et après sa mort, des gens comme Dickens, Darwin vont saluer son travail, mais c'est sûr que du point de vue scientifique, ça a pris... Elle recommence à apparaître, je te dirais, dans la littérature, mais pendant longtemps, quand on parlait de paléontologie, elle n'était même pas là.
Oh, bon, ben super, j'ai hâte déjà pour la suite. La première m'a fâchée, ça va être quoi les quatre autres?
Non, la deuxième est moins... Non, ne te fâchera pas du tout, mais Mary Anning, écoute, c'est le début du 19e siècle aussi, c'est une région très campagnarde, elle n'a pas de mari, le film qui a pris la tangente qu'elle était lesbienne là, avec Kate Winslet, où on voit qu'un réalisateur a vraiment juste eu envie de voir Kate Winslet
s'envoyer en l'air, d'autres c'est madame.
Ça s'appelle Ammonite, si jamais vous voulez le titre du dit film, c'est pas mauvais en soi, mais ce bout-là
dérange
un petit peu, exactement. Dans les pionnières, on est toujours en Angleterre. Il faut dire que l'Angleterre et la France sont quand même des pays qui, au niveau des femmes archéologues, ont le haut du pavé. Il y a la Suède aussi un peu, qui va avoir quelques femmes qui vont commencer à faire de l'archéologie au 19e siècle, qui vont commencer à l'enseigner un petit peu, mais ça reste encore très, très marginal. On se le cachera pas. Mais quand on arrive dans les années après la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, c'est vraiment une période très, très importante où l'archéologie n'est plus de l'exploration de gens riches, mais devient aussi une science. Et ça change un petit peu la donne, oui?
Mais c'est ça que j'allais dire. Mary Anning, c'est vraiment juste, je me promène, j'y vais, je trouve des choses. C'est pas encadré comme l'archéologie qu'on a en tête en ce moment, là, où il y a des terrains, des sites de fouilles, c'est méticuleux, c'est pouce par pouce, centimètre par centimètre. Mary Anning, c'est plus, je marche, je vois des choses, je ramasse, j'écris, puis c'est ça.
Je catalogue. J'ai au moins l'esprit scientifique de tout noter, tout dessiner, cataloguer, essayer de classer les espèces que je découvre. Elle avait quand même cette esprit scientifique-là, mais effectivement, quand on est au 19e siècle, les gens qui font de l'archéologie, on va le mettre en gros guillemets, ne sont pas des scientifiques. T'sais, qu'on pense à Heinrich Schliemann avec le supposé trésor de Troie, la découverte des Minoens sur l'île de Crète, ce sont des hommes souvent qui viennent de familles très aisées, souvent même de la noblesse ou de la bourgeoisie, qui ont beaucoup d'argent. Les moyens de transport se sont améliorés, bateaux, trains, etc. Commencent à faire une espèce de grand tour, mais veulent voir des sites qu'ils ont vus, mettons, comme l'Égypte. Depuis l'expédition de Napoléon Bonaparte, ben là, c'est l'Égyptomanie, le monde veut aller en Égypte, etc. En Grèce, voir où Socrate s'est exprimé.
Je l'haïs, Socrate, je l'haïs tellement. La philo de cégep m'a fait haïr Socrate passionnément. Lui puis Blaise Pascal, parle-moi pas là-dessus, my God.
Mais je te dirais, en vieillissant, des fois, on les relit et on ne voit plus ça de la même façon.
Aucune chance que je relis ça. Aucune chance. Aucune.
Je pourrais au moins te faire lire Marc Aurèle, l'empereur romain. Peut-être que tu trouverais ça plus intéressant.
Peut-être. Regarde, je suis pas fermée, mais il va falloir quelque chose en échange, là, parce que je fais pas ça gratuit.
D'accord. Bon, traumatisme collégial, philosophie grecque et Gabriel égale no.
No way. Mais revenons à notre deuxième archéologue. J'ai oublié son nom, tu l'as-tu dit?
Non, je pas encore. Elle s'appelle...
OK, vas-y.
Est-ce qu'on parlait de ça que ça devient une science? On va finir ce bout-là.
Ah oh, oui, c'est
que,
vrai, excuse.
Lentement, mais sûrement, quand on va arriver, juste avant la Première Guerre mondiale, en fait, déjà, il y a des découvertes archéologiques un peu partout, en Égypte, au Moyen-Orient, en Angleterre, qui commencent à faire réaliser qu'il y a vraiment des choses intéressantes à découvrir sur plein d'époques. Des fois, là où on a des trous historiques importants, parce qu'on n'a pas d'archives écrites, pensez aux Vikings, des choses comme ça. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben là, on réalise qu'on ne peut pas juste fouiller partout, prendre des objets, les amener dans son pays. Ça prend, bon, des musées régionaux, ça prend des musées locaux, ça prend une façon de faire aussi quand on fouille pour pas détruire ce qu'on va commencer à appeler les strates, la stratigraphie, les époques, pas détruire le contexte archéologique pour mieux comprendre les objets venaient avec quoi, ils étaient enterrés où, parce qu'au début, le monde, il fouillait, il prenait les choses, bon, etc. Arrive la photographie aussi graduellement qui va beaucoup aider. Si jamais c'est sur des sites de construction, on va pouvoir photographier tout le site, et même si on doit détruire le site une fois qu'on a retiré les objets, ben on a les images, les photos de ça. D'ailleurs, vous avez un film sur Netflix, produit par Netflix, qui s'appelle The Dig. J'imagine que...
T'en as déjà parlé à chaque épisode.
Mais tu sais, qui montre un petit peu ce contexte-là, là, où ça commence à devenir beaucoup plus scientifique et mieux encadré, je te dirais. Alors, l'archéologie est en train de changer, est en train de devenir une science, mais les femmes sont pas nécessairement plus acceptées. Elles vont l'être quand elles sont mariées à des archéologues et que le mari, attention, que le mari les considère comme étant leur égal. Et là, ça devient une partenaire, une coéquipière, et elle va pouvoir co-signer des articles parce que le mari va dire « Oui, oui, ma femme, elle a ce qu'il faut. Ah, ouais, vous allez l'accepter, puis elle va venir au club avec moi après ça, puis je vais fumer mon cigare, mais elle va parler d'archéo avec vous. » Ça prend souvent ce genre d'hommes-là qui voient vraiment l'intelligence de leur femme, qui disent « Elle me suit sur les terrains de fouille, puis c'est pas vrai qu'elle va rester en dessous d'un parasol. Elle fouille avec moi, elle note avec moi, elle a l'intelligence pour, puis vous allez l'accepter. » Et c'est ce qui arrive à Maud Cunnington, qui est mariée à Monsieur Joseph Cunnington. Mais eux, en Angleterre, vont découvrir le pré Stonehenge.
Je sais pas c'est quoi. Tu dis ça comme si c'était un punch, mais j'ai aucune idée
Stonehenge,
c'est quoi.
Stonehenge, tu sais ce que c'est?
Oui, c'est notre... je sais quoi, je suis déjà allée.
Bon, ben t'es exactement au même endroit, dans le Wiltshire, la plaine d'Avebury. Ils vont en fait découvrir un autre cercle plus ancien que ce qu'est Stonehenge. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre, en fait, les étapes qui ont mené vers la construction de Stonehenge, le fait qu'il y avait des gens du néolithique qui commençaient à habiter là, à se sédentariser, à chasser dans la plaine, puis qui ont dû commencer à observer les phénomènes astronomiques qui va faire en sorte qu'on va construire cette espèce de méga sanctuaire, site d'observation, lieu de culte que va devenir le gros Stonehenge. Donc, on appelle ça Woodhenge parce que c'était des poteaux de bois au début. Et ce sont les trous, les traces laissées par ces poteaux de bois-là que elle et son mari vont commencer à découvrir. Et ce qui est intéressant avec Maud Cunnington, c'est que justement, les articles scientifiques, les découvertes, le financement, comment on va essayer de s'assurer de préserver le site et tout ça. Ils vont d'ailleurs beaucoup, elle et son mari, travailler pour être sûr que le site de Stonehenge appartienne au patrimoine anglais et ne soit pas, que les terres agricoles ne soient pas cultivées, qu'on préserve tout ça. Ce qu'ils réalisent, il y a plein de choses en dessous. On n'a peut-être pas le temps ou la technologie présentement pour fouiller. Présentement, on le fait. Il y a beaucoup de découvertes depuis quelques années, mais c'est grâce à eux. Et ce qui est intéressant, c'est que son nom est toujours là. Alors, ils ont des moyens financiers. Il faut dire qu'ils sont quand même... ils font partie de l'élite financière. Mais ils vont racheter littéralement, en fait, tout ce qui est la plaine où se trouve aujourd'hui le Woodhenge et Stonehenge. Et ils vont donner ça à l'Angleterre, au peuple anglais. Et aujourd'hui, c'est English Heritage qui gère, en fait, tout ce qui est patrimonial partout au Royaume-Uni, qui en a la charge. Mais donc, c'est grâce à eux, parce qu'ils ont racheté tout ça, puis ils se sont dit, il n'y a personne, il n'y a pas un promoteur, il n'y a pas un agriculteur qui va venir déranger ces sites-là. Il y a plein de choses sur notre histoire la plus ancienne qui se trouve là, et on doit protéger ça, et on doit l'offrir au public. Et c'est un couple qui a toujours cru à l'importance de vulgariser le début de cette science qu'est l'archéologie à monsieur, madame, tout le monde, pour qu'ils soient plus conscients de l'importance du patrimoine. Si tu n'éduques pas les gens à ça, ils ne comprennent pas. Alors, c'est un duo, mais elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire sur l'importance de cette espèce d'archéologie publique, et c'est son nom que tu vois. Elle n'est pas la sidekick de son mari, ils sont à égalité. Donc ici, oui, un couple, mais un couple qui a permis à une femme de pouvoir travailler à l'égal de son mari à une époque où c'était terriblement difficile pour les femmes de ne serait-ce dire « je fais de l'archéologie ». Ben non, t'es juste l'épouse de...
Wow, c'est comme un power couple paléontologue. Oui. Non, pas paléontologue, un power couple archéologue.
mais qui en plus avait une vision sur le patrimoine qui était très novatrice pour l'époque. Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose de vraiment très intéressant par rapport à ça.
Mais tu sais, j'ai juste une parenthèse sur Stonehenge, que moi, j'ai toujours appelé Stonehenge.
Comme tout Québécois.
Parfait, merci, parce que je me suis sentie vraiment nouille la fois où j'ai compris que c'était pas ça. Puis peut-être que ça serait intéressant de faire un épisode là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce site, sur ce que c'était, ce que c'est, les théories, l'évolution, tu sais, tout autour, là, je le note, je pense que ça serait bien le fun d'un épisode sur Stonehenge. Merci.
Mais je peux te faire ça avec grande joie. Là, je veux dire, c'est un sujet, un que j'aborde souvent, mais qui, il y a tellement de nouvelles données à peu près, je trouve, 6 mois.
Tout le temps, là.
Oh, oui, ça vaut vraiment la peine d'en parler. Moi, c'est sûr que, tu vois, ça, c'est le danger de la radio publique. Dis pas ça sur les ondes de radio au Canada, parce que la police de la langue va arriver en 2 secondes, tu recevoir une tonne de courriels te disant « Oh mon Dieu, à un moment donné, vous avez dit Stonehenge plutôt que Stonehenge! » Puis là, tu sais, ils t'écrivent la prononciation dans le courriel en majuscule, juste pour être sûr de te montrer que tu l'as merdé. Là. Fait que c'est pour ça que je...
J'ai-tu déjà dit que j'haïssais les gens? J'ai-tu déjà dit comment j'haïs le monde en général? Parfait.
Mais pas nos auditeurs, les nôtres sont parfaits!
Non, mais tu sais, comme... En tout cas, ça me fascine. En même temps, ça me fascine que tu aies autant de temps libre. Bref, on en a fait deux. Donc, Mary, Maud, et oui. Là, la troisième, c'est qui?
Agatha Christie, parce que...
Agatha Christie, l'autrice, là.
L'autrice, bien sûr! Et elle, s'il y en a une qui a rendu l'archéologie populaire, juste après la découverte de la tombe de Toutankhamon, il y a comme un duo là, qui se fait ici, où les gens commencent vraiment à voir... c'est trippant l'archéologie, waouh, on trouve plein d'affaires et tout ça. Mais Agatha Christie a été, je dirais, une des personnes qui a... amener un intérêt pour l'archéologie, le métier d'archéologue. De par ses romans, oui, mais c'est parce qu'elle avait l'expérience des sites de fouilles et ça transparaît dans ses romans, surtout Meurtre en Mésopotamie, là, qui vraiment est celui qui se démarque ici. Parce que Agatha Christie, elle avait été mariée une première fois à Monsieur Christie et pour l'époque, tragédie, elle divorce. À la fin des années 20, c'est vraiment pas...
Elle ose!
Oh mon Dieu! Son mari la trompe allègrement. Elle était même disparue 12 jours quand elle avait compris ça. Elle divorce.
C'était un stunt, hein, me semble, ça. Elle a pas fait un stunt, un moment donné d'une disparition.
On n'a jamais été trop certain, mais ça a beaucoup aidé sa carrière qu'elle ait fait ça. C'est sûr. Mm. Mais il y a encore aujourd'hui plein de gens qui essaient d'élucider ce mystère qu'elle nous a laissé. Qu'est-ce qu'elle a foutu pendant 12 jours?
Mais laissez-la tranquille. Elle est allée au spa avec ses chums de filles, parler dans le dos de son ex, là, comme n'importe qui.
Mais ce qui fait qu'à l'aube des années 30, c'est une femme qui traîne un petit parfum de scandale parce qu'elle est disparue à un moment donné, mais en plus parce qu'elle est divorcée. Et elle voyage, elle en a les moyens et elle s'en va en Irak. Pourquoi pas? Hein? Tout le monde va en Irak comme ça en voyage. Et c'est comme ça qu'elle rencontre un homme qui est beaucoup plus jeune qu'elle, quelque chose comme 14, je crois, ou 16 ans, là, je ne suis plus certaine. Mais il s'appelle Max Mallowan. Il est archéologue pour le British Museum et c'est le coup de foudre. Et Agatha Christie va le suivre sur les terrains de fouilles et ensemble, ils vont fouiller en fait plein d'artefacts de la préhistoire et de l'antiquité de plusieurs civilisations de la Mésopotamie. Mésopotamie entre deux fleuves, Mésopotamos, entre le Tigre et l'Euphrate. Donc essentiellement, on va parler de l'Irak, mais aussi de la Syrie, couloir syro-palestinien, des fois un petit peu la Turquie. C'est ce qu'on inclut un peu là-dedans. T'as l'air médusé.
Non, pas tout. J'écoutais la définition. J'étais encore sur la définition de Mésopotamie. OK, oui, parfait. Je viens de comprendre. Je suis même pas sûre que j'ai compris, en fait, ce que tu
entre
dis, mais je fais semblant. Mais comme Agatha Christie était déjà connue, est-ce que c'est elle qui a fait briller son conjoint ou l'inverse?
Les deux. Je te dirais qu'ici, c'est pas tant le qu'elle a fait briller le conjoint, elle a fait briller la science. Et ça, c'est quand même assez spectaculaire. Mais elle a fait des fouilles. Elle était assez badass pour dire « Vous n'allez pas me laisser en dessous d'un parasol, vous, là. Je fouille avec mon mari, puis vous allez me laisser tranquille. » Fait que dans les années 30, ils vont faire quand même des fouilles assez importantes.
C'est sûr qu'elle est en pantalon, hein? C'est sûr qu'Agatha Christie apporte des pantalons.
Sur les photos, pas tant. Des fois, elle a quand même des grandes jupes, comme c'était la mode à l'époque aussi. Mais il n'y a pas tant de photos que ça d'elle non plus sur les sites. Il y en a quelques-unes, mais quand même pas une grande série, mais ils vont quand même faire ensemble beaucoup de découvertes importantes qui vont être achetées par le British Museum, parce que Max Mallowan est un archéologue du British Museum, mais ils vont rapidement tous les deux aussi dire il faudrait qu'il y ait des objets qui restent sur place, comme Gertrude Bell, qui bien avant avait fondé le musée de Bagdad dans cette optique après la Première Guerre mondiale. Agatha Christie, qui est dans le même secteur, va s'assurer là, qu'il y ait une partie des pièces qui vont rester au musée de Bagdad aussi. Donc, elles ont un lien, ces deux femmes-là, censées être connues. c'est ma façon de dire, oui, il y aurait Gertrude Bell entrait dans le palmarès, mais comme on a fait un épisode sur elle, elle n'est pas là.
Oui, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, me semble que c'est notre épisode sur quoi? Les aventurières?
Ça doit, oui.
Me semble que oui. Hein? Bref, si vous voulez entendre Evelyne parler passionnément de Gertrude Bell, c'est cet épisode. mais Agatha Christie, elle avait comme pas de formation d'archéologue.
Non, mais par son mari, au fil des années, c'est sûr qu'elle va comprendre comment faire. Elle va être très, très attentive à tout ce qu'il fait puis à tout ce que ses collègues font aussi sur le terrain. Elle va beaucoup prendre de notes pour lui, catalogage. Elle est bonne en esquisse aussi, hein, donc elle dessine. C'est pour ça que je ne peux pas être archéologue. Moi, je ne sais même pas faire un bonhomme à lunettes. Elle avait ce talent-là, mais par ses romans, bon, Mort sur le Nil, mais surtout, surtout Meurtre en Mésopotamie avec Hercule Poirot, on sent à quel point elle veut montrer que le travail d'archéologue, c'est éreintant, mais c'est intéressant, mais comment ils travaillent fort pour des fois trouver des toutes petites pièces et comment on arrive, on essaie de les interpréter. Et donc, un petit peu comme la découverte de la tombe de Toutankhamon quelques années avant l'a fait, il y a comme vraiment un intérêt en lisant ça pour non seulement le Moyen-Orient, mais pour l'archéologie comme science, comme discipline. Alors là-dessus, elle est vraiment, vraiment le fun, Agatha Christie, dans cette façon d'aborder la science et de la rendre intéressante, je te dis.
Mais elle est contemporaine de l'autre, de Maud et son mari.
Oui, ils sont contemporains, oui, effectivement, mais ils sont pas du tout dans le même secteur. Donc, c'est sûr que Agatha Christie va commencer à fouiller plus d'une décennie après Maud Connington, par exemple. Puis en Irak, alors que le couple Connington est resté en Angleterre. Donc, ils sont restés sur la côte. Ils sont restés dans le Wiltshire.
Mais c'est fou parce qu'on dirait qu'à cette époque-là, il restait tout à découvrir. Tu sais, il y avait... C'est ça, je trouve ça fou. Plus on recule dans le temps, plus tout était encore enfoui. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je dis?
Ben, tout était plus enfoui. C'est que on commençait à réaliser, comment je pourrais dire ça? Il y avait les fouilles archéologiques vont vraiment commencer avec le Vatican à l'époque de la Renaissance. Tu sais, c'est quand même une longue histoire. Oui, parce que quand on va vouloir excaver Rome pour construire la basilique Saint-Pierre, on va découvrir les sculptures grecques, romaines, les bâtiments des Romains, pour faire ils faisaient ben donc des belles choses, puis nous autres, c'est ben donc lettres depuis plusieurs centaines d'années. D'où l'idée qu'on va appeler ça le Moyen-Âge. Hein. Entre nous et l'Antiquité, il y a 1000 ans entre les deux, c'est ben plate, ça s'appelle le Moyen-Âge. C'est vraiment ça. ben oui.
J'adore. Mon Dieu, Evelyne qui shade le Moyen-Âge. Que se passe-t-il?
Non, c'est pas moi, c'est eux autres à l'époque qui ont fait ça. Et c'est là où on commence à faire des fouilles archéologiques pour retrouver le passé de ces gens qui aussi intellectuellement redécouvrent les textes des anciens Platon. Et autres, tes amis, là. Mais on se dit, waouh, eux autres, ils l'avaient l'affaire, puis ils étaient comme pas dans l'obscurantisme religieux et des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'on cherchait des choses très précises. On n'avait pas cette science de dire, ben, on peut pas juste creuser un trou, sortir des sculptures, puis tout détruire. On n'est pas dans la science archéologique, mais il se fait des fouilles. Pompéi, 18e siècle, où on va vraiment entreprendre les premières fouilles officielles. Fait que, tu sais, il y a des lieux comme ça connus dans les archives qui intéressent les gens, mais là, ce que tu vois et ce dont je te parle, c'est des sites pour lesquels il y a très peu de documentation écrite et on essaie de créer les livres d'histoire pour ça. Et ces fouillons ont été majeurs, en fait, pour nous aider à comprendre les plus anciennes civilisations, que ce soit en Angleterre ou au Moyen-Orient ou en Égypte et ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'on construit le savoir historique quand on n'a pas d'écrit, entre autres, surtout pour ce qui est très, très, très ancien, tandis que, bon, à l'époque du Vatican, c'est pas ça qui les intéressait. Là. C'était les sculptures grecques et romaines, puis Michel-Ange s'inspirait de ça, mais tu sais, je veux dire, le passé le plus ancien intéressait pas nécessairement tant que ça.
C'est fou, j'aurais pas pensé que c'était si vieux que ça, les, je vais dire, balbutiements de l'archéologie.
Ben, c'est sûr que les gens sont...
J'espère que vous appréciez mon utilisation du mot balbutiement.
Il est bien placé. Les judicieusement utilisés. Mais tu sais, c'est une époque où, tu sais, je veux dire, c'est l'époque aussi, tu sais, à l'époque des Tudors, Élisabeth et tout ça, ben, il va y avoir des décors entiers, des murs peints de style néronien, parce qu'en 1480, il y a un Italien qui est tombé dans un trou à Rome, littéralement un trou, puis il est tombé dans l'ancien palais de Néron, l'empereur Néron, et il y avait des peintures d'époque, et ça a donné le style grotesque, puis tous les gens riches d'Europe essayaient de recopier ça. Fait que tu vois, ça remonte quand même à très loin.
Mais, hey, mais puis là, on s'écarte un peu du sujet, là, mais j'ai vraiment l'impression que l'archéologie, c'est souvent de la chance ou de la malchance, là, selon comment c'est quoi ton point de vue, là, mais tu sais, t'es quelque part, tu tombes dans un trou, t'as trouvé quelque chose. C'est ça qui s'était passé avec la grotte, là, tu sais, où ils ont trouvé des traces de mains?
Oui, ben en fait, t'as plusieurs grottes préhistoriques, c'est des accidents, effectivement, où t'as un berger ou quelqu'un qui finit par soit tomber dedans ou la trouver par accident. Mais il faut dire que au fil du temps, le fait d'avoir une technique de fouille, de pouvoir comparer aussi les écrits d'époque, déchiffrer les langues anciennes, tu sais, il y a tout un processus qui commence à s'amorcer 18e, 19e siècle là-dessus. Ça fait en sorte qu'on a une meilleure idée d'où chercher. On est moins maintenant dans le hasard, ça arrive encore, mais un peu moins peut-être effectivement le 18e, 19e siècle. Mais donc, la prochaine, elle, même si elle n'a pas fait, elle n'a pas eu le temps de faire grand-chose, elle est quand même fantastique, je la mentionne brièvement. Elle est naturalisée française, elle habitait en fait dans une région qui était plus allemande. On est à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, juste un peu avant en fait. Elle s'appelle Marie, encore une fois, il y a beaucoup de Marie, hein? C'est des noms prénoms populaires, mais là c'est Marie. Et non pas Mary, Akin, mais de son nom de jeune fille Parmentier, comme le potage. Et elle, elle est quand même intéressante.
Hey, j'ai cette référence, merci.
Ça va, oui. Elle est intéressante parce que dans l'entre-deux-guerres, bon, elle aussi, elle épouse un archéologue et même chose que pour Maud Connington, duo. Ils s'aiment, mais ils reconnaissent le niveau intellectuel de l'un et de l'autre. Ils sont une équipe. Ils ont les mêmes intérêts et elle ne sera pas, sa carrière ne sera pas obscurcie par celle de son mari. Au contraire, il va la mettre en avant-plan, mettre son talent en valeur. Et eux vont fouiller beaucoup là, en Afghanistan, en Israël. Tu sais, des zones où c'est pas encore très, très populaire. Là. Je m'excuse, là, mais ils vont loin. Et en Afghanistan, ben, ils vont mettre au jour, en fait, ce qu'on appelle le trésor de Begram, qui est un trésor assez fabuleux qui est en Afghanistan, qui c'est plein de pièces de toutes les époques. On a un vase en verre qui montre un gladiateur de l'époque romaine. On a des objets en or. On a des objets qui arrivent de la Chine. C'est parce que l'Afghanistan était un territoire quand même de connexion pour les routes de la soie. Alors, le grand commerce entre l'Orient et l'Occident passait par l'Afghanistan, par le secteur de Kaboul et tout ça. Et ils vont commencer à dévoiler tout ça avec ce trésor tellement diversifiés et éclatés. Ils sont super populaires pour ça. Et là, arrive la catastrophe. Bang! Deuxième guerre mondiale. Et là, la France va les mandater et tout le monde est mobilisé d'une façon ou d'une autre. Et elle, elle va s'occuper du corps des volontaires françaises. Alors, c'est quand même pas rien. Elle va aider à organiser le corps féminin des volontaires françaises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, on va même, sous Charles de Gaulle, on va lui demander avec son mari d'aller en Inde, en fait, pour... organiser des, on va dire, espionnage, on va parler peut-être aussi de protection de territoire. Leur mission était un peu floue. Malheureusement, elle ne se rend pas parce qu'en 1941, en février 1941, elle n'a que 35 ans. Le bateau sur lequel il se trouve est torpillé, proche des îles Féroé, donc on est dans le secteur des îles du Danemark, et elle meurt. Et donc, sa carrière s'est arrêtée comme ça, schlack, à 35 ans.
Ah! Oh mon Dieu, c'est un cauchemar de mourir torpillé sur un bateau. Arc!
Très loin aussi, dans les eaux froides des îles danoises. Bon, là, il a l'air vraiment
terrible. C'est vraiment une fin tragique.
Oui,
non, mais c'est vraiment une fin tragique, tragique. Puis imagine tout ce qu'il aurait pu trouver si la guerre avait pas éclaté ou si elle avait survécu puis elle avait pu continuer ses recherches par la suite, là.
Ouais, elle était quelque chose. Tu sais, organiser un corps féminin, un corps militaire féminin dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas facile non plus, là. C'est la preuve qu'on avait quelqu'un qui était jeune, mais qui était intelligente et qui savait se démerder. C'est surtout ça qu'il faut retenir.
Wow! OK, puis notre dernière, c'est qui va égaler ça?
Qui va égaler ça? Écoute, j'ai deux grandes idoles dans la vie. En archéologie, du moins.
Là, tu vas me parler d'Alexandre le Grand. Attends, je suis très confuse.
J'ai dit en archéologie.
OK.
Il y a Gertrude Bell, mais là, ça c'est fait. J'en ai suffisamment parlé. Mais vous avez aussi la meilleure et non la moindre, Christiane Desroches-Noblecourt, que je te présente ici, qui est une égyptologue française.
Attends, t'as un parti pris. C'était pas une de tes profs?
Non, j'ai pas eu cette chance. J'aurais donc aimé.
Non, j'aimerais qu'on apprécie à quel point Evelyne serre son livre contre elle, puis elle y a même donné un petit bec. J'ai vu.
Je l'aime tellement. Que j'ai aimé cette femme. Je l'aime encore, même si elle est décédée. Elle est morte à 97 ans. Elle, contrairement à Marie Akin, a eu le temps de botter des derrières masculins parce qu'elle a toute une carrière. Christiane Desroches-Noblecourt, en fait, est une jeune fille qui habite en France, qui voit les fouilles de la tombe de Toutankhamon en Égypte et s'est dit « Je vais être égyptologue », comme bien des gens. Sauf qu'elle, elle le fait. Elle a l'intelligence et tout, suit les cours, apprend les hiéroglyphes, elle devient super, vraiment futée. C'est la première femme qui peut aller étudier au Caire à l'IFAO. L'IFAO, c'est l'Institut français d'archéologie orientale. Ils existent toujours aujourd'hui, ils sont au Caire. Et c'est là, généralement, que les futurs égyptologues et les égyptologues français travaillent. C'est là que leur base scientifique, ils collaborent aussi avec l'Université du Caire pour différents cours, s'échangent plein de choses. Et c'est une des premières femmes à aller là à la fin des années 30. Et quand elle arrive, les égyptologues masculins sont tellement fâchés de voir une femme arriver à l'IFAO que quand elle arrivait à la bibliothèque, ils quittaient tous pour témoigner du fait qu'ils n'étaient pas d'accord qu'une femme devienne égyptologue, que c'était pas un métier pour une femme. Et ils sortaient de la bibliothèque, ils la laissaient là toute seule, même chose dans les salles à dîner, peu importe où elle allait, pour lui montrer qu'il fallait qu'elle s'en aille, qu'elle n'était pas à sa place. Ils l'abandonnaient constamment, mais ça l'a juste motivée à pousser davantage, au point où elle va travailler là, comme directrice des antiquités pour le Louvre. Elle va faire beaucoup de choses importantes. Et qu'est-ce qu'on lui doit? On lui doit beaucoup de fouilles extraordinaires. On lui doit d'ailleurs beaucoup de travaux sur Hatshepsut. Évidemment, elle va travailler sur une reine femme qu'on a essayé de cacher dans l'histoire. Elle a écrit un livre fabuleux sur elle, d'ailleurs. Mais c'est elle qui va... elle va faire chier Charles de Gaulle,
littéralement. Ah, ben voyons, comment... Pourquoi?
Parce que... Ah, elle est magnifique. Elle va réaliser qu'on va construire le barrage d'Aswan, qui est un barrage qui a inondé une bonne partie du sud de l'Égypte et qui allait inonder beaucoup de monuments majeurs, dont Abu Simbel. Si ce n'était pas de Christiane Desroches-Noblecourt, Abu Simbel serait sous l'eau présentement, il n'existerait plus. Ça, c'est le gros temple de Ramsès II que vous connaissez tous avec les gros colosses, lui et sa femme. C'est un temple très connu. Bien, ce temple-là, elle va hurler sur toutes les tribunes, demander des fonds partout, demander à l'UNESCO de l'aider, et elle va demander l'aide de plein d'architectes pour voir comment on peut scier ce temple-là. C'est gigantesque, là. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de pierres. Comment on peut le couper en morceaux et le déplacer pour ne pas qu'il soit inondé par le barrage d'Aswan, qui est nécessaire pour l'Égypte à l'époque, pour l'agriculture, pour avoir l'électricité, pour plein de choses. Et elle va finir par y arriver. Mais Charles de Gaulle, à un moment donné, va dire, mais qui vous a donné le droit au nom de la France en Égypte de faire quelque chose comme ça? Ben, elle va lui répliquer quelque chose comme, ben vous, pendant la guerre, vous ne demandiez pas vraiment la permission à qui que ce soit, mais vous le faisiez pour votre patrie. Puis là, il a comme fait, oui! Et ça l'est fermé.
J'adore. Mon genre de femme. J'adore.
Ah, écoute, elle aurait vraiment été ton genre de femme. Elle est fabuleuse. Comme je disais, elle est morte à 97 ans, puis elle a travaillé presque jusqu'à la fin de sa vie. Elle essayait de elle donnait encore des entrevues. Elle était très âgée. Je m'en rappelle toujours parce que moi, je suis une spécialiste plus de l'Égypte gréco-romaine. Mais elle a aussi travaillé sur les Ptolémées, donc les ancêtres de Cléopâtre. Et je la vois toujours dire, bah, ils se mariaient tous entre eux, c'est pour ça qu'ils étaient tous tarés. Hein. C'est vissé dans mon cerveau parce qu'elle a la face qui vient avec et tout. Elle était très expressive. Il fallait voir, il y a quand même des entrevues avec elle sur YouTube, à bien des endroits où elle est dans beaucoup de documentaires un peu plus vieux. Quelle femme! Quelle femme qui s'est battue toute sa vie pour dire une femme égyptologue, c'est aussi bien, même meilleur que les hommes.
C'est quoi le livre que t'avais? C'est quoi son livre?
C'est sa biographie écrite par elle-même, ça s'appelle « Sous le regard des dieux ». Alors, par Christiane Desroches-Noblecourt, si vous voulez comprendre sa vie, sa carrière et justement cette lutte constante contre le sexisme, ben vous pouvez lire ça. C'est pas cher, en format poche maintenant. C'est fabuleux. Il y a même beaucoup de photographies de ce qu'elle a fait comme fouille d'elle sur le terrain en une espèce de short jusqu'aux genoux avec des collants en dessous, avec un look vraiment archéologue du désert. C'est vraiment, 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 vraiment un bon livre.
Bon, ben écoute, merci Evelyne. J'ai découvert 4 archéologues parce que j'en connaissais juste une, puis j'ai aussi découvert qu'Agatha Christie, tu sais, j'en connaissais, mais j'en connaissais pas sous l'aspect archéologue. Fait que, honnêtement, j'ai appris beaucoup. comme toujours, avec toi. Écoute, on va passer maintenant à notre minute d'histoire sexy. Evelyne, pour notre minute d'histoire sexy présentée par Eros et compagnie, j'ai tellement hâte. Depuis que tu m'as écrit sur Messenger que c'est de ça qu'on allait parler, je suis crampée, là, que j'ai beaucoup de questions et j'ai vraiment hâte.
C'est une minute, pas un épisode.
C'est sûr qu'on fait plus que ça. C'est sûr qu'on fait... Parce qu'on va parler des procès d'impuissance.
Oui, en France, 16e, 17e siècle, effectivement. Parce que c'est important de produire une progéniture et il ne faut pas juste batifoler avec des maîtresses, il faut avoir des enfants légitimes. Et une femme qui est, on va dire, délaissée par son mari et qui n'a pas d'enfant parce que le mari peut être gay aussi ou pour plusieurs autres raisons, peut, à un moment donné, citer à ce que son mari a procès pour qu'on vérifie s'il est impuissant. Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'enfant? Et souvent, on se rend à ces procès-là quand la femme dit « ça lève pas ». Donc, quand on est au lit, tout ça, il ne peut pas remplir son devoir conjugal. Pour une fois, c'est tourné contre les hommes et non pas contre les femmes. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais il ne peut pas remplir son devoir conjugal tel que l'Église demande. Et ben là, je veux le divorce pour avoir un autre mari qui me donnera des enfants. Et là, ben s'il y a divorce, bon, il y a séparation des biens, il y a plein de choses. Et c'est un des rares cas où une femme fait demander le divorce en France à cette époque-là. Là, je veux dire, c'était la seule raison, en fait. Et pour avoir gain de cause, toutefois, ben là, il faut aller en cour. Et là, le couple s'en va en procès. Et publiquement, on va essayer de voir si l'homme est capable d'avoir une érection ou pas. Bonne chance, messieurs, pour avoir une érection en cour!
Non! Attends! Fait que là, t'es dans ta salle. T'es dans ta salle de cour avec genre un juge, des avocats, ta femme, des témoins, du public, des journalistes, des greffiers,
ben là, non.
Sur la totale. Puis là, comme, monsieur, montrez-nous que vous êtes capable d'avoir une érection.
Ouais.
Mais y avait-tu de l'aide? Y avait-tu des magazines? Y avait-tu
comme... Il y a eu comme magazine, mais tu sais, la femme va comme se déshabiller un petit peu. Des fois, ils vont même amener des femmes un peu plus jeunes pour voir si ça va fonctionner. Puis si ça lève pas pantoute, ben ça vient donner raison à la femme et ben là, elle peut demander le divorce, puis ça va commencer à leur coûter très, très, très cher. Fait qu'on appelait ça, les tribunaux d'impuissance. C'est un peu ça, le terme.
Mais
parce
comment...
Que...
Attends, non, mais j'ai tellement de questions. J'ai tellement de questions, là.
Une
comme...
minute.
Comme, j'ai encore juste une autre question. Comme, est-ce qu'il fallait juste qu'il y ait une érection ou fallait qu'il aille au bout de son érection? Tu sais, comme, est-ce qu'il y avait un chronomètre, genre...
Non, non, c'est vraiment la question de l'érection. C'est l'impuissance. Non, non, pas de... Ben, en tout cas, écoute, on n'a pas tant d'archives que ça, là, mais de ce qu'on en comprend, c'était vraiment l'idée de voir est-ce qu'un homme est capable d'avoir une érection, parce que l'Église considérait quand même à l'époque qu'on brisait le sacrement du mariage si un mari n'honorait pas sa femme. Mais imagine, tu sais, si t'es... vraiment pas attiré par les femmes, mais t'es attiré par les hommes, ça se peut qu'en voyant ta... De toute façon, t'es voyais pas tout le temps toute nue, ça dépend d'à quel point t'étais conservateur ou pas, ça se peut que ce soit plus difficile, tu sais, je veux dire, on le sait, là, qu'il y a eu des souverains en Europe qui étaient plus portés vers les hommes, qui s'excitaient avec leurs mignons dans le lit d'un côté pour essayer, après ça, d'honorer leur femme, parce que sinon, ils arrivaient pas à avoir une érection. Alors, voilà, l'Église...
Mais ils connaissaient pas la technique de la pipette, là.
La quoi?
Comme le...
La quoi?
Non, mais t'as jamais entendu des gens qui essaient de tomber enceinte à la bonne franquette. Fait que, mettons, le gars, il vient, puis là, il y a comme un... Comment qu'on appelle ça? Une pipette à jus de dinde, là. Comment ça s'appelle?
Ah, oui, OK, d'accord. Une poire.
Tu sais, il aurait pu faire ça. Oui,
peut-être.
Une poire, exact, c'est ça.
Mais c'est en ça. Tout cas, dans certaines archives, ça a été demandé est-ce qu'il couche avec sa femme devant le juge, mais pour vos... Tu sais, c'est le genre de choses qu'on pouvait faire. 16e, 17e siècle, donc, en France, voilà, les procès pour impuissance.
Oh my God! Mais là, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un épisode là-dessus. J'ai tellement de questions. Il y en a-tu eu beaucoup? Comme, il y en a-tu eu trois ou c'était genre huit par semaine?
Non, 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 ben non, pas huit par semaine. Ben non, ben non, ben non. Là, j'ai pas les chiffres devant moi, rien, parce qu'on fait juste une minute. Mais si jamais on en fait un épisode, on regardera ça plus en détail.
J'ai beaucoup de questions. Venez nous écrire vos questions aussi sur le groupe, parce que, en tout cas, je vais faire un statut, là, genre tribunaux de l'impuissance. impuissance, là, puis on va shooter nos questions. On va brainstormer, parce que moi, j'ai bien des questions. On vous rappelle que vous pouvez aller sur le site d'Eros et compagnie et pour remédier à votre impuissance, vous pouvez aller utiliser le code HISTOIRE15 pour vous stimuler et vous amuser parce qu'ils ont plein de jouets et autres. Vraiment, vraiment le fun. Alors sur ce, ben Evelyne Ferron, merci beaucoup.
Merci, Gab! Écoute, ça y est, ton rêve d'archéologue, tu l'as vécu, mais à travers d'autres femmes.
Oui, mais ça m'a comme confirmé que c'était pas pour moi. Je vais aller visiter des musées, ça, admirer le travail des autres. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt!
À la prochaine!